set to play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast proposé par l'équipe de Panthers FR, 57e numéro de notre émission avec, comme d'habitude, Guillaume au micro et, comme vous en avez l'habitude également, Thomas pour m'accompagner. Bonsoir Thomas, comment vas-tu ?
Bonsoir Guillaume, bah écoute, voilà, on est de retour pour ce 57e Poundcast cumulé. Ça va, mais bon, j'ai l'impression de me répéter depuis quelques années maintenant, mais ça aurait pu aller mieux avec une victoire des Panthers, malheureusement, mais ce n'est pas le cas.
C'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup dernièrement, et puis on n'en a même pas eu du tout depuis notre dernière émission. On est sur un épisode par mois, en fait, on a regardé ça tout à l'heure, on est assez régulier à ce niveau-là. Donc pour cet épisode du mois de décembre, on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis le précédent, avec 4 matchs et 4 défaites en novembre. Alors, il y a une défaite qui est un peu plus logique face à Dallas, qui quand même, il y avait un écart sur le papier entre les deux équipes. Par contre, c'est vrai qu'à côté de ça, il y a 3 défaites face aux Colts d'Indianapolis, aux Bears de Chicago et aux Titans de Tennessee. Alors, je ne veux pas leur faire offense, mais on ne peut pas dire que c'était des équipes qui étaient vraiment hors de portée de Carolina. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 4 matchs et ton ressenti, notamment sur ces 3 matchs face aux équipes que je viens de citer ?
Bah écoute, on en avait parlé notamment dans le dernier podcast en prévision, voilà, des matchs pardon, des matchs qui arrivaient. On avait pronostiqué assez timidement une victoire, et au final on s'est planté quand même parce qu'on n'a même pas atteint cette victoire. C'est pas bon, c'est pas beau, c'est pas spécialement agréable à regarder. Il n'y a pas de victoire au bout, donc on peut pas se dire on joue mal, mais on gagne, donc voilà, on fait abstraction. Non, là, c'est... Voilà, contre les Colts, on aurait pu espérer pouvoir faire quelque chose, mais bon, assez vite, voilà, on se retrouve avec une défaite au bout. Contre les Bears, il y a eu ce match, le nullico, qu'on pourrait qualifier, vu la forme des équipes sur ces derniers mois et ces dernières saisons. À noter que Justin Fields n'était pas titulaire, c'était leur remplaçant, dont j'ai bien sûr oublié le nom. Donc on perd le match 16 à 13, pas beaucoup de contenu de haute qualité. Les Titans, un peu une physionomie différente face à une équipe des Titans qui est pas super excellente cette année, avec un Will Levis qui réussit quand même quelques trucs cette saison pour eux. Ce fameux match contre les Cowboys où on s'attendait pas forcément à un miracle, hein, clairement. J'entendais quelques fans des Cowboys sentir entre guillemets un match piège un peu pour eux, dans la mesure où c'était un peu le genre de match qu'ils étaient capables d'aller perdre alors qu'ils ont une sacrée puissance offensive et défensive. La logique a été respectée, une défaite 33-10. La saison est longue.
Ouais, la saison est très très longue. Moi j'avoue comme toi que c'est les 3 défaites là, face à Indianapolis, Chicago et Tennessee. Sur les 4 matchs, il y a 13-13 et 10-10 de marqués. Donc ça fait, si je compte bien, 46 points en 4 matchs. C'est clairement pas suffisant, même si on sait que depuis le début de la saison, l'attaque est plus qu'en difficulté. Moi, un point un peu énervé quand même. J'avoue que j'étais un peu énervé par ces défaites. Pas autant que David Tepper, visiblement, puisque toutes ces défaites-là ont mené à l'info qui est tombée la semaine dernière et le licenciement de Frank Reich après seulement 11 matchs. C'est Chris Tabor, le coach des équipes spéciales, qui a été nommé pour assurer l'intérim. Alors, il a tout de suite prié Josh McCown, le coach des quarterbacks, et Deuce Staley, celui des running backs, de partir. Alors, question pour toi par rapport à ça, est-ce que c'est une décision qui t'a surprise ? Ou alors, tu t'y attendais, tu la voyais venir avec ce bilan donc de 1-10 au moment du licenciement de Reich.
Bah alors, il me semble que justement, on avait un peu parlé la dernière fois, et voilà, il y avait ce fusible Frank Reich qui était très clairement remis en question, et disons que le bilan était pas spécialement à son avantage, surtout voilà, vu la série de matchs qu'on a enchaîné, où on aurait peut-être pu faire un peu mieux, même clairement mieux. Donc voilà, l'enchaînement de ces matchs-ci a clairement pas aidé, et était clairement pas été en sa faveur. Après voilà, ça se comprend parce que on s'est quand même sacrément ennuyé, on va pas pour éviter de sortir un gros mot. Mais bon voilà, c'était prévisible. La question c'était plutôt, enfin prévisible. On savait que ça allait très possiblement arriver entre maintenant, on va dire voilà, il y a quelques semaines et la fin de saison. Et ben ça s'est arrivé quand même assez vite. Donc peut-être voilà une volonté de la part de Tepper et du reste du front office d'essayer de faire bonne figure et de corriger le tir sur les derniers matchs s'il y a quelque chose à corriger. Les coachs comment dire un peu virés dans la foulée. Bon, Josh McCown et Deuce Staley, j'ai envie de dire, c'est pas spécialement surprenant dans la mesure où Bryce Young n'a pas. On n'a pas eu l'impression d'avoir vraiment une grosse plus-value en fait sur la saison en cours, une vraie amélioration de ses skills entre guillemets. Les running backs, voilà, on en a mal parlé, enfin mal parlé, on a évoqué la réalité pendant sur plusieurs podcasts, donc voilà, bah voilà, les fusibles qui devaient sauter ont sauté. Maintenant, il reste plus qu'à trouver un bon électricien. Et visiblement, ça s'est porté sur Chris Tabor pour l'instant. À voir. Bon, c'est un choix, par contre, qui a été peut-être un peu plus étonnant dans la mesure où bah, c'est quand même le coach des équipes spéciales. Et voilà, ni Evro n'a pas été. Surtout, moi, très surpris de ne pas voir Evro nommé head coach. C'était peut-être pour moi le plus probable, mais pour autant, ça ne s'est pas fait. Et puis en attendant, il y a un certain Steve Wilks qui doit un peu se marrer du côté de San Francisco.
Et surtout après la prestation qu'ils ont livrée hier défensivement face aux Eagles, mais ça c'est un autre débat. Ouais, je te rejoins à peu près. Moi je suis un peu sur le coup un peu surpris quand même, parce que c'est vrai que je pensais que vu qu'il avait été nommé dès le début de saison et que bah il y avait eu une grosse recherche quand même, hein. Ça avait duré un bon mois et demi cette affaire pour trouver le bon coach. Donc c'est vrai que pour ça j'étais un peu surpris de voir Tepper couper court au bout de même pas un an. Après c'est vrai que licencier un coach qui est à 1-10 après 11 matchs, avec un coach qui a quand même une réputation offensive et une équipe qui plafonne à, je sais plus, je crois que c'est de l'ordre de 12 ou 13 points de moyenne par match depuis le début de la saison, bah, c'est sûr que de ce côté-là, c'est pas vraiment étonnant d'en arriver à cette conclusion-là. Chris Tabor à l'intérim, je peux le comprendre dans le sens où notamment c'est ce qui était dit hier soir pendant le match par les commentateurs. En fait, le coach des équipes spéciales, il parle un petit peu à tout le monde, aussi bien en attaque qu'en défense, donc il est un petit peu au courant de tout. Et puis en plus, il était déjà là l'année dernière, donc c'est vrai qu'il a un petit peu un passif, un historique de peut-être mieux connaître le roster qu'un Thomas Brown ou un Ejiro Evro. Evro qui, a priori, on lui a même pas proposé, hein. On sait que l'an dernier, il avait été question qu'il soit head coach des Broncos. Il n'avait pas voulu prendre la relève. Donc voilà, là, ils se sont pas posé la question. Peut-être lui n'était pas intéressant, on ne saura jamais. En tout cas, voilà, c'est Chris Tabor qui va assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison. Ce dont j'avais envie de parler avec toi quand même par rapport à ce licenciement, c'est aussi de toutes les rumeurs et les infos qui sont sorties derrière, parce qu'on a lu un petit peu tout et son contraire par rapport à Frank Reich, par rapport à David Tepper, par rapport à différentes strates de l'organisation des Panthers. Donc je voulais savoir un petit peu toi ce que ton avis sur tout ça. Moi, la rumeur qui m'a le plus étonné tout de suite, c'était de voir que En fait, Frank Reich et Josh McCown avaient tous les deux une préférence pour CJ Stroud plutôt que Bryce Young au moment de la draft. Et c'était ça serait le choix de Tepper, principalement de prendre Young plutôt que Stroud. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Non, pour moi, c'est celle-là, elle est un peu, pour moi, elle est un peu abusée. Voilà, les médias se sont pas mal, comment dirais-je, déchaînés un peu, voilà, sur ça, sur cet élément de la conférence de presse de Tepper. Pour moi, non, c'est vrai que pour moi, il y avait une espèce de kiff-kiff entre guillemets entre Bryce Young et CJ Stroud. La balance a plus penché d'un côté que de l'autre, mais à un moment c'est pas que l'affect en fait du propriétaire qui fait pencher surtout sur un move aussi important avec une telle contrepartie. On n'est pas sûr, enfin j'espère qu'on va pas retomber un peu sur un management à la Jerry Jones du côté de Dallas où il y a vraiment un poids super important du propriétaire dans les décisions qui peut parfois être un peu hasardeux, et là c'est un peu en train de pencher dans ce sens-là, donc il va falloir remettre tout ça d'aplomb assez rapidement, je pense.
Ouais, on reviendra sur Tepper un petit peu plus tard. Mais je te rejoins. Moi j'ai beaucoup de mal à croire à ça pour plusieurs raisons. Alors, déjà, parce que les différents sites que j'ai vus contredire cette info, hein, donc que Reich préférait Stroud, je leur fais plus confiance personnellement. Mais là, c'est plus mon opinion à moi. J'ai plus confiance en eux que dans les autres sites qui annonçaient l'inverse. Et puis surtout, depuis le début, il y a enfin, toutes les communications, tout ce qu'on pouvait lire, voir, on pensait, enfin, indiquer tous que CJ Stroud était un très bon quarterback, mais Bryce Young avait ce petit truc en plus, et qu'à partir du moment où tu étais d'accord, enfin, tu étais OK avec son gabarit, qui était le seul point faible qui était listé, bah, il faisait plus sens en termes de numéro 1. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois la saison de CJ Stroud, bah, ça fait un peu bizarre, et en plus, contraste encore plus saisissant quand tu compares avec celle de Bryce Young. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu avais 90 ou 80, ouais, 95% peut-être des mock drafts, aussi bien des fans que des insiders, que des journalistes. Quasiment tout le monde mettait Bryce Young au-dessus. Alors, je veux bien, mais après coup, c'est un peu facile, je trouve, de juger.
C'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir, ouais, justement.
Ouais, c'est voilà, c'est sûr que si on avait eu les infos avant, bah, j'imagine que ils auraient choisi Stroud, évidemment. Mais encore que voilà, Stroud, dans cette attaque des Panthers, il ferait pas les mêmes stats qu'à Houston non plus.
Non, clairement, clairement.
Donc voilà, moi, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment cet écart-là, mais bon, enfin, cette préférence vraiment avéré entre Young et Stroud pour Reich. Mais bon, on saura probablement jamais le vrai du faux là-dedans. Moi, j'ai quand même des doutes, quoi. D'autres trucs au niveau du quarterback, moi j'ai vu que il y avait une partie des coachs qui étaient pour mettre Dalton titulaire en cours de saison, autour de la semaine 5-6 là. Qu'est-ce que ton avis là-dessus? Tu penses que ça a pu jouer dans la décision, ou...
Bah, pour moi, c'est entre guillemets, c'est possible que voilà, certains coachs aient proposé de je vais y arriver. Et voulu voilà le faire jouer un peu plus Dalton, parce que voilà, on a vu que Bryce Young a quand même eu des matchs assez difficiles et que bah, il n'était pas spécialement mis en confiance par cette ligne qui est un peu une très jolie passoire cette saison. Pour moi, c'est plausible, parce que voilà, on a un quarterback dont on n'en veut pas spécialement altérer entre guillemets le développement. Après, le problème, c'est que ça renvoie aussi un message qui est pas spécialement bon et pas spécialement fort dans le sens de Bryce Young, dans le sens où ben, on a l'impression que du coup ben, le coaching staff a plus la confiance, ce qui je pense n'est pas vrai, mais voilà, c'est disons que le message envoyé était peut-être pas le bon.
Ouais, et puis c'est, enfin, moi, ce qui, alors là-dessus, ouais, pareil, je sais pas, ça me paraît possible, effectivement, qu'il y ait une partie du coaching staff, mais qui voulait faire ça. C'est plus inquiétant dans le sens où, bah, effectivement, tu te rends compte que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde.
Non.
Et c'est un petit peu les craintes qu'on aurait pu avoir, qu'on avait un peu mis de côté au début. C'est vrai que quand on avait vu ce super coaching staff 5 étoiles annoncé, on s'est dit ça va être super. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pris en compte que ben, il pouvait y avoir des problèmes de, j'allais dire, d'incompatibilité. Mais ouais, ça, à la limite, moi, ça me choque moins. Ça me paraît plus possible. Une autre info qu'on a pu lire en parlant de coaching staff, c'était ces histoires de RPO, de run pass option, qui était un système donc, qui était pas mal utilisé à Alabama et dans lequel Bryce Young avait plutôt du succès. Et visiblement, il avait été question de demander à Frank Reich d'intégrer ce genre de concept dans son play calling et il n'était pas chaud pour le faire et ça aurait pu jouer dans la décision de Tepper de le licencier. Qu'est-ce que tu penses de cette opinion?
Bah c'est là c'est assez celle-là elle est très difficile dans la mesure où voilà enfin on n'a pas tous les échos et puis de temps en temps il y a un écho qui sort du vestiaire mais bon c'est un peu les des, on dit que c'est voilà c'est assez difficile de savoir des fois ce qui se passe en interne pour moi bah, ça a peut-être pu jouer dans la décision ça a clairement pas été un élément décisif mais pour moi en fait si y a un élément en fait entre guillemets au niveau du play calling qui a été important c'était vraiment au niveau voilà de du peu de diversité et de la comment dire de la enfin, du fait que les plays étaient très facilement prédictibles par moment quoi. Surtout ça voilà pour moi un concept de RPO voilà c'est pas le truc qui a le plus joué quoi.
Ouais, c'est vrai que alors pour le coup on n'en a pas vu beaucoup. Hein. Sous Frank Reich, c'est vrai que c'est pas un truc qu'il a beaucoup intégré. On en a eu un peu plus hier. C'était pas non plus très très enfin beaucoup plus efficace, on va dire. Mais moi ce qui m'étonne, c'est que enfin quand tu recrutes Frank Reich à ce moment-là, je suis étonné que la question vienne pas, quoi. Parce que tu sais que tu recrutes un nouveau head coach, tu sais que tu vas aller chercher un quarterback à la draft, alors tu sais pas lequel, mais dans l'hypothèse où tu vas chercher Bryce Young, enfin, je suis étonné qu'ils n'aient pas évoqué la question, quoi, avant de se dire, bah ouais, tiens, au fait, Franck, est-ce que intégrer des RPO avec Bryce Young, tu serais pour? Enfin, je sais pas, je trouve ça étonnant qu'ils n'en aient pas parlé avant, moi, mais bon,
Ouais,
bizarre.
totalement.
Et la dernière question, dernière rumeur que j'ai vue passer, qui m'a fait un peu sourire aussi, c'est alors David Tepper qui demanderait à intégrer des jeux parce qu'il a vu dans le match dans un autre match, il a vu un jeu sympa et il a dit, tiens, ce serait pas mal qu'on essaye de faire ça. T'en penses quoi de ça, moi, ça me fait un peu sourire. Mais...
Bah, ça me fait sourire. Après, voilà, on en parlait un peu tout à l'heure, voilà, du fait que Tepper avait un peu, voilà, l'envie, en fait, entre guillemets, d'être acteur de la franchise à tous les niveaux, des fois. Donc, ce serait pas impossible, entre guillemets, qu'il y ait une suggestion qui soit arrivée dans les oreilles de Reich et de Brown, mais bon. Voilà si maintenant c'est le après voilà on peut tenter un nouveau concept où David Tepper fait le propriétaire le GM le coach et puis peut-être même le quarterback ça pourrait être novateur je pense.
Ouais, je pense surtout que c'est. Enfin, j'imagine. Enfin, c'est le genre de truc, moi, où j'imagine très bien que ça a pu être monté en épingle, tu vois. Genre, le
Ouais.
mec, enfin, j'imagine toi aussi, quand tu regardes un match, des fois, tu te dis, tiens, c'est sympa cette technique qu'ils ont fait, telle équipe, machin. Tu te dis, ah ben, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça aux Panthers avec l'effectif qu'on a? Enfin, ce genre de truc, tu le dis devant ta télé, ça se trouve,
Bah
t'es peur,
voilà, ouais,
il a dit la même chose.
totalement.
Je pense pas qu'il ait mis un couteau sous la gorge à Frank Reich en disant, vas-y,
Non, c'est ça,
intègre ça
clairement.
ou t'es viré, quoi, tu vois.
C'est ça, bah voilà,
Je
nous on se
pense
dit
pas que
ça
c'est.
devant la télé, puis lui, il le propose parce qu'il a la franchise,
Voilà, c'est
il
ça.
la possède, donc c'est un peu plus
Il a
simple pour eux.
quelques milliards de dollars de plus que nous, donc il peut se permettre de le proposer. Mais bon, voilà, en tout cas, ouais, c'était pour avoir un peu ton avis sur tout ça. Il y en a sûrement d'autres, des rumeurs. Moi, c'est celle que j'ai le plus vu revenir. Mais c'est vrai que c'est un peu la période quand il y a un changement de coach et qu'en plus, c'est pas la première année que ça arrive. On lit un petit peu tout et son contraire. Donc voilà, je pense que c'était pas mal de faire un petit point. Après, comme tu le disais, on n'est pas dans les murs, hein, du Bank of America Stadium, donc. un petit mot quand même, puisqu'on parlait de David Tepper et du front office. Donc Frank Reich, lui, est parti. Scott Fitterer, lui, est toujours là. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu penses de son maintien? On sait qu'il y a eu une question en conférence de presse justement qui a été posée à David Tepper à ce sujet-là. Il a esquivé la réponse. Ton avis sur Fitterer, il attend la fin de saison pour prendre une décision ou comment ça se passe?
Ouais, pour moi, il attend la fin de saison, voilà, comme tu dis, pour prendre une décision. À l'heure actuelle, bah, le Scott Fitterer, c'est quand même assez, enfin, malheureusement, ça se mitige dans le mauvais sens pour lui, quoi. Entre les décisions sur le poste de quarterback, donc certes, il y a eu, enfin, les coachs aussi ont eu un peu leur mot à dire pour prendre des décisions, mais pour autant, bon, entre Darnold. Ça commence à, on va dire, ça commence à s'accumuler, puis à côté de ça, voilà, on a quand même des joueurs qui ont été tradés ou qui n'ont pas été tradés, justement, où maintenant on commence un peu à se dire bah, qu'est-ce que ça aurait été en fait si l'inverse s'était produit, quoi. Parce que quand on voit que l'an dernier Brian Burns, on nous propose par Los Angeles deux premiers tours de draft pour le récupérer. Que cette année on l'a pas encore prolongé et que on n'a pas eu d'offre équivalente. La question peut se poser. Bon, après, je pense que c'est pas Madame Irma non plus. Voilà, et comme on disait tout à l'heure, c'est toujours plus simple de réfléchir a posteriori sur les choses. Mais bon, pour autant, voilà, à côté de ça, on a aussi un CMC qui s'éclate sur la côte ouest. Bah, franchement, je le dis avec un pincement au cœur, hein, mais difficile de regarder les matchs des 49ers. C'est un super heureux pour lui, mais on se dit, purée, on avait ça, quoi.
Ah bah ça, moi là, je pense que j'avais été assez clair au moment du quand on avait débriefé justement ce trade. Moi, j'ai pas changé d'avis dessus, hein. C'est effectivement jusque-là, Scott Fitterer, on peut pas dire qu'il ait eu le nez creux sur les différents trades. Après, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de sens, je trouve, de virer un general manager comme ça à un mois et demi de la fin de la saison. Parce que bah voilà, il y a toujours entre guillemets de l'intendance à gérer. Donc je pense qu'on en saura plus à la fin de la saison. Mais c'est vrai que je vois difficilement comment il pourrait passer entre les gouttes. Je veux dire, Frank Reich n'est pas le seul responsable du fait que l'équipe soit dans cet état-là en termes de roster et de jeu. Les décisions qui ont été prises. À mon avis, par Fitterer joue aussi, donc il n'est pas impossible qu'il prenne la même direction que Frank Reich dans quelques semaines. Et puis, bah, du coup, on se repartirait avec un nouveau combo GM head coach à recruter à l'intersaison. Dernier suspect. Qu'on doit étudier quand même dans ce front office, c'est David Tepper, parce qu'on le mentionne quand même depuis plusieurs fois maintenant. Tu le disais, tu le trouves un peu trop impliqué dans les décisions, certains le trouvent impatient. C'est vrai que depuis qu'il est là, la franchise bah, ne gagne pas beaucoup, n'est toujours pas en playoff depuis 6 ans maintenant. Alors, est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu penses de toutes ces décisions? Est-ce que tu penses justement que, par exemple, cette réputation de mec impatient est justifiée?
Après, voilà, enfin, je vais rebondir un peu aussi, voilà, sur son bilan. Faut quand même préciser qu'il a fait venir Beyoncé à Charlotte. Non, pardon, ça c'était pour la blague. Non, bah voilà, il est. En fait, comme tu dis, en fait, il y a la question de l'implication et la question de l'impatience. Mais en fait, le problème, c'est que bah, il est impatient, mais parce qu'il a pris des décisions, pour dire les termes de merde, sur certains aspects. Et voilà, du coup, en fait, nécessairement, en prenant ces décisions, eh bien, on n'a pas eu la progression qu'on aurait pu avoir et qu'on aurait dû avoir avec cette équipe, parce que bon, on a quand même eu des bons éléments, hein. Mais pour autant, voilà, ça a pas matché super bien. Donc là, on est dans une spirale de médiocrité depuis quelques temps. Et malheureusement, bah, pour en sortir, va quand même falloir être un peu patient, parce que là, je pense que ça va commencer aussi à le picoter un peu, le fait qu'on n'aura pas ce premier choix de draft ou autre, si on commence à gagner une folle série dans les semaines à venir. qu'on n'ait pas ce premier choix de draft, va falloir être encore un peu plus patient parce que va falloir construire un peu plus avec la draft, avec la free agency, pardon. Va falloir être plus intelligent dans les recrutements, plus intelligent sur les différents mouvements d'intersaison. Refaire aussi du capital, refaire du capital draft pour vraiment les récupérer un peu du talent et du sang frais. Mais voilà, ça va pas se faire en claquant des doigts, encore une fois.
Ouais, tu vois, là-dessus, moi, je veux pas me faire son avocat, mais qui soit, enfin, je suis pas sûr que, par exemple, sur les recrutements des joueurs, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment impliqués, tu vois.
Non,
c'est plus des décisions, effectivement, du coach et de.
Non, voilà, pour moi, c'est plutôt sur cet aspect-là.
Fitterer, quoi. Après, c'est vrai que pour le coup, il a raté son recrutement avec Rühle. Il a raté son recrutement avec Reich, ça on peut le voir maintenant. Pour autant, moi je vois beaucoup revenir le fait qu'il est impatient parce qu'il a viré déjà 3 coachs. Alors, si tu refais le détail, Ron Rivera, je pense que tout le monde était d'accord qu'il arrivait en fin de cycle et il fallait passer à autre chose.
Ouais.
Après, il a recruté Rühle. Ça a pas donné, enfin, ça a pas marché du tout. Et on était les premiers à dire au bout de 2 ans qu'il fallait passer à autre chose. Je trouve qu'il a été plus que patient avec Matt Rühle à ce niveau-là. Donc, quand il le vire, tout le monde était plutôt d'accord et aurait fait la même chose que lui, voire l'aurait même fait avant, nous les premiers. Et là, Frank Reich, il s'est encore planté sur le recrutement, c'est sûr. Donc, après, virer un coach qui est à 1-10, c'est. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un truc qui paraît complètement improbable. Donc,
qu'il soit
mauvais sur le recrutement des coachs, ça c'est une chose. Il faut peut-être qu'il passe la main et qu'il fasse confiance à quelqu'un d'autre pour le faire. Sur les décisions de virer les coachs, je pense qu'on est beaucoup, on serait beaucoup à avoir fait la même chose. Ah, on peut lui dire qu'il aurait pu conserver Steve Wilks. Ça c'est vrai. Ça, il y en a un argument qu'on voit beaucoup revenir. Mais après, au-delà de ça, je sais pas. Encore une fois, hein, je sais pas exactement à quel point il est impliqué, mais sur le côté impatient, je trouve que, par exemple, avec Matt Rühle, il a été plus que patient, personnellement. Mais, donc, je sais pas, on va voir comment il réagit et comment ça se passe pour le prochain recrutement. Moi, je voyais une comparaison qui revenait pas mal, justement, on parlait des 49ers tout à l'heure. Le proprio des 49ers, avant de trouver Kyle Shanahan, il a galéré un peu hein, les 49ers pendant quelques saisons, c'était pas beau. Hein.
Voilà, non mais après voilà, c'est la question, c'est voilà, faut Tepper, ça fait pas longtemps qu'il gère la franchise entre guillemets en solo, dont enfin qu'il est propriétaire, enfin pas longtemps. Ça fait quelques saisons maintenant, mais voilà, maintenant faut, je pense qu'il fait un peu des erreurs, comment dire, de débutant dans la mesure où il essaye d'avoir une implication qui va être assez grande. Mais que il va finir par apprendre de ses erreurs, prendre un peu plus de recul et agir un peu plus uniquement entre guillemets sur les grosses décisions pour la franchise, en mettant un peu voilà déjà aussi des hommes forts pour l'épauler quoi.
Ouais, je pense après je sais pas, je le connais pas personnellement évidemment, mais je pense qu'une fois qu'il aura trouvé le duo general manager head coach qui va bien. Je l'imagine assez bien être capable de prendre un peu de distance
totalement,
avec
ouais,
la franchise.
Totalement.
Matt Rühle, il avait reconnu que c'était une erreur de sa part au niveau du recrutement. Bon voilà, on verra ce que ça donne pour la suite, mais et pour le prochain head coach. Mais bon, ce sera à surveiller. Ce qui nous amène quand même à la dernière question avant de conclure, justement, un nouveau head coach qui va arriver aux Panthers, mais qui? Et est-ce que ce poste, selon toi, va être attractif? Parce que, alors, on l'a dit, certes, il n'y a que 32 équipes NFL, donc quand on a la chance d'être head coach de l'une d'entre elles, c'est toujours un plus. En plus, on l'a dit, Tepper est quand même du genre à ouvrir le portefeuille assez facilement. Par contre, globalement, entre la qualité actuelle du roster, le manque de ressources et l'implication du proprio dans les décisions et la vie de la franchise, est-ce que tu trouves ce poste attractif? Alors, pas forcément pour toi, évidemment, mais pour les top candidats, on pense notamment à Ben Johnson, qui était le coordinateur offensif des Lions, qui était un des chouchous la saison dernière et qui avait décliné l'invitation. Est-ce que tu penses que ça peut plus les intéresser cette année que l'an dernier, par exemple?
Alors, ça va être... Fondamentalement, tu te dis par rapport à l'an dernier, bon, on a récupéré on a récupéré Bryce Young en numéro 1 à la draft. Après, voilà, on sait que qu'il a quand même pas mal à progresser sur la suite de sa carrière. Pour autant, bah comment dire, le head coach qui voudra venir, bah, va falloir être patient, va falloir être bon formateur et bon et redonner vraiment du peps à cette franchise, de la combativité. Et c'est vrai que ça peut rebuter quand même pas mal de monde, de se dire, bah tiens, j'arrive, il y a un roster qui est un peu cassé de partout. On a quand même pas mal de blessés dans cette équipe, donc ça peut faire un peu peur de se dire, bah tiens, chouette, on a une jolie équipe sur le papier, sur certains postes, mais ça risque de se péter. Ça risque de se péter quelque chose relativement vite, donc ça peut être un obstacle. Mais bon, voilà, on va repartir sur ces processus de sélection des coachs, voilà, comme on a pu le voir à la dernière intersaison. Je pense qu'à force, Tepper va avoir un peu sa méthodologie à lui, donc à noter, ne pas inviter un coach pour faire des ne pas cuisiner avec lui, avec ce qui s'était passé avec Matt Rhule. Frank Reich, j'ai pas souvenir qu'on avait eu de trucs dans ce genre-là. Mais bon, voilà, c'est pour l'image. Mais pour moi, voilà, comme tu le signales, il y a 32 équipes en NFL. T'as un poste qui se libère, t'as peut-être quelqu'un quand même qui va avoir l'envie de se dire, ah tiens, je vais tenter l'aventure. Après, clairement, on va repartir encore avec un coach, je pense, à dominante offensive pour accompagner Bryce Young.
Ouais, après, c'était plus la. Par exemple, tu vois, tu prends l'exemple d'un Ben Johnson. S'il a le choix entre les Panthers ou les Chargers, qui semble être une équipe qui revient beaucoup,
Ah bah, il va
bah,
aller aux
c'est sûr
Chargers,
que
ça c'est.
voilà,
Ah bah.
la décision peut être assez vite prise. Mais bon, voilà,
On
on
aura peut-être
verra.
encore une fois un Benyemi dans le process, hein.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, ce qu'on pouvait dire sur ce changement de coaching staff. Pour conclure, on va quand même dire un mot du match d'hier, donc une défaite 21-18 sur le terrain des Bucks. La première de Chris Tabor aux manettes de cette équipe des Panthers, avec donc Thomas Brown qui appelait les jeux. Je ne sais pas toi, moi j'ai pas vu une grosse différence en termes de play calling et de résultats. Un peu plus de jeu au sol peut-être, mais c'était pas.
C'était
C'était
pas
pas
flamboyant non
transcendant,
plus,
quoi, voilà,
non.
c'est ça.
Non, 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 c'était pas transcendant, transcendant. Pour faire un débrief assez rapide, bah voilà, c'est comme d'habitude. Un Bryce Young qui est très vite mis sous pression, une ligne offensive qui est une véritable passoire. Du coup, il se retrouve à courir ou à lâcher le ballon beaucoup plus vite. Il fait du coup des intentional grounding et du coup, bah, on perd encore du terrain, on perd des downs. C'est compliqué. Des receveurs qui arrivent pas toujours à créer la séparation. En défense, bon voilà, on a eu à noter, voilà, on a eu le retour de JC Horn notamment, fait assez rare pour le signaler, enfin fait assez rare, pardon, fait inattendu pour le signaler sur ce match-ci, en espérant que les blessures soient derrière lui, mais là on croise tous les doigts possibles et imaginables, un Brian Burns qui se prend une exclusion stupide, pas d'autre terme. Donc non, voilà, c'était les Carolina Panthers, le Cirque Panthers édition 2023. Bientôt en tournée dans votre ville. Va falloir du changement et vite, parce qu'on a quand même une bonne partie de la fanbase qui commence un peu à être saoulée, notamment, voilà, il y a eu un bon déferlement sur David Tepper. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a eu un gros déferlement sur David Tepper après la conférence de presse, après l'annonce du licenciement de Frank Reich. Mais voilà, c'était prévisible, ça va avec le mécontentement des fans qui en ont un peu marre de ce niveau de jeu proposé depuis quelques saisons maintenant.
Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident de regarder les matchs hein, depuis quelques saisons. Et on peut difficilement vouloir aux fans effectivement d'être un peu saoulé là-dessus. Prochain match quand même, on va regarder un déplacement à la Nouvelle-Orléans. Donc encore un match de division. Bon voilà, on verra ce que ça donne. si il y a un peu plus de réussite et que le play calling est un peu meilleur, parce que moi j'ai trouvé par moment hier qu'il y avait des décisions un peu bizarres sur des appels de jeu, mais bon, c'est pareil, hein, c'est toujours plus facile après coup. En tout cas, voilà, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette émission ce soir. Merci d'avoir enregistré avec moi.
Bah écoute, merci à toi.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du podcast. Salut.
Salut.